Alors, on en est au 12e chapitre et on va essayer quand même de l'attaquer cette fois-ci. Alors peut-être on peut lire le texte d'abord, les 11 versets, avant de se pencher vers le questionnaire. Si quelqu'un veut le faire, c'est bien. Dans n'importe quelle version, c'est pas important.
Ben, je vais lire. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la garde, devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. »
Ça, tu es bien. C'est quoi ta version?
C'est second.
C'est pas mal.
Ouais,
second.
Ouais, 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 j'ai vaincu. Énormément. Ouais. Alors, l'enfant décriait à une époque, et maintenant on vient. Hein. Ouais. On dit qu'elle est fortuite.
C'est vrai, second 1910, c'était un peu désuète.
Bon. Ah oui?
Ça, c'est du second moderne.
C'est oui.
Il y a peut-être une partie.
Revue,
parce que moi, je... c'est ça, je sais, mais l'autre, j'aime bien cette version.
C'est beau.
Je
ne
saurais pas dire quelle version.
C'est la préface à l'édition 909, 917.
Il y a une version revue, c'est peut-être ça.
Donc,
je ne sais pas
normalement,
de.
Et derrière.
Oui, c'est certainement, c'est déjà plus moderne que.
Non,
on ne
met pas derrière.
C'est 114. Des années 70, certainement. Ok.
Tu ne le sauras pas.
Oui, c'est pas grave.
Mais nous, c'est exactement le même texte. Hein.
Et toi, c'est quoi?
Ça doit être ça.
Ah, c'est top.
C'est
fait face à l'édition américaine de 1967. Je ne sais pas.
Donc, pour nous resituer un peu dans le contexte de ce que nous avions vu, donc c'est au moment où l'Église prend son essor, y compris en dehors des frontières de la Palestine ou de la Judée, qu'une nouvelle vague de persécution s'abat sur l'Église de Jérusalem, à l'initiative du roi, dont on parlera dans un moment, Hérode Agrippa Ier. Et au moment où se déroulent nos faits, donc l'exécution de Jacques puis l'arrestation de Pierre, on est à la veille de la fête de Pâques. Voilà. Fête juive, j'entends. Ok. Et donc on avait une question.
Ah, j'ai une question.
Oui.
Parce que je viens de voir que Pâques, ils ne l'ont pas encore fêté.
Qui?
Les Juifs.
Ah, ça ne tombe pas en même temps que nous, de toute façon.
Non, de toute façon,
jamais.
Jamais.
Ah oui.
Et il y a une raison, ça. Elle est mobile, là, le roussel, la note qui est mobile.
La nôtre est mobile, c'est sûr.
La nôtre est mobile.
Elle
change. Hein,
oui. Ouais.
Elle est tombée très haut aussi.
La première pleine lune du printemps, qui suit le printemps.
Qu'est-ce que tu as dit?
Ça, c'est lié à la première pleine lune qui suit le printemps.
Eux, c'est lié à la date calendrier du mois de Nissan. Donc, il faut que ça tombe vers le 15 Nissan, si je me souviens bien.
Voilà.
Donc c'est assez immuable.
Donc eux, c'est immuable. Ah oui, c'est nous qui bougeons.
Nous, nous bougeons.
Sauf qu'ils ont des mois qui sont plus courts que nous. Certains de leurs mois hébraïques, si tu veux, comportent seulement 20, 28 jours, ah oui, des trucs comme ça.
Ok, merci.
Mais théoriquement, c'est toujours à la même date, en tout cas. Donc voilà, donc une nouvelle persécution. C'était la question 1. Ça va sur l'Église. Qui en est l'auteur et qui vise-t-elle en particulier? Si, parce que si on compare avec la précédente, c'était quoi la persécution précédente?
Bonne question.
Non.
Il est vilain, je le sentais bien.
Donc, on a eu une première vague. Je ne parle pas, pas d'histoire.
Avec Étienne, non?
Oui, donc juste après l'assassinat d'Étienne, là, il y a eu une persécution assez massive, au point que ça a fait fuir pas mal de gens de Judée, qui sont barrés, même à l'étranger, pour certains.
C'est Saul qui ravage l'Église.
Alors, lui, il a concouru, mais qui était derrière? C'était les autorités juives, temple. Donc la première grande vague, c'est plutôt une vague de persécution religieuse du judaïsme contre la voie messianique et qui touchait absolument n'importe qui, homme, femme, enfant, enfin tout le monde, du moment que tu portais l'étiquette messianique. Ici, on est devant quoi?
C'est plutôt politique.
Ouais. Persécution plutôt politique.
Et qui est placé par les Romains.
Oui, c'était un copain des Romains. Mais j'expliquerai après qui il était vraiment.
C'est Mais la donc, cinquième persécution, hein, entre parenthèses. J'étais étonné de voir ça.
Oui, parce qu'il
On ne les
déjà
compte
eu.
Pas, mais c'est la cinquième.
Il y avait déjà eu l'arrestation des apôtres, si vous vous souvenez, par le Sanhédrin, le fait qu'on les ait battus des 49 coups moins 50 moins 1, si vous voulez. Voilà. Il y a plusieurs petites vagues comme ça qui sont... et toujours sous l'égide des autorités juives. Alors qu'ici, on est devant le roi de Judée, mais qui n'est pas franchement judéen à 100%, parce que c'est un mélange de deux branches dynastiques, etc., dont une qui est iduméenne, donc il n'a rien à voir avec Israël. Et donc on peut parler d'une persécution plutôt politique qui vise qui?
Les têtes, exactement. L'entourage des...
La tête de l'Église.
Donc
il s'en prend uniquement aux dirigeants. Et c'est quoi son... D'après vous, pourquoi il le fait?
Pour couper la tête, pour...
Pour plaire aux Juifs.
Oui,
par démagogie.
Il y a certainement démagogie, plaire aux Juifs, mais... On peut aussi dire que...
Que ça va s'éteindre.
Voilà, exactement. Donc là, il a vu... Enfin, il n'est pas bête, Hérode. Il a bien vu que la persécution religieuse, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Ça n'empêche pas l'Église de continuer de grandir, y compris à l'étranger. Donc lui, il décide tout d'un coup qu'il va régler ses comptes et qu'il va éliminer la tête et qu'à ce moment-là, tout va s'écrouler. C'est un peu ça son pari, finalement. Donc, alors, revenons-en maintenant au bonhomme. D'abord, est-ce que vous aviez une idée sur, quand on parle de l'époque en ces jours-là, toi, tu avais quoi dans ta version pour commencer?
À cette époque.
À quoi fait-il référence? De quelle époque parle-t-il? Il y a deux hypothèses. Deux hypothèses possibles.
Pendant ce qui se passait à Antioche.
Oui.
Parce qu'il y a les deux sous-titres.
Donc, alors, tu n'as pas tort. Il y a, d'une part, on peut faire le... On peut faire l'hypothèse que c'est l'approche de la fête de Pâques qui est visée dans cette époque-là. Mais si on s'en tient à ce qui précédait, on doit plutôt s'orienter vers qu'est-ce qui s'est passé à Antioche et qu'est-ce qui a été décidé à Antioche. Donc au moment où Antioche a décidé de subvenir aux besoins des croyants de Judée,
intervient cette persécution. D'accord ? Donc c'est plutôt ça qu'il faut peut-être venir, y compris peut-être l'idée de la venue de Barnabas et Saul à Jérusalem. Bien que le texte, nous ne nous en parle pas. Hein, vous savez, on a parlé de la récolte, des collègues, on ne savait pas trop la dernière fois quand est-ce que, quand, comment. Pourtant, si vous êtes allé voir plus loin, au chapitre 12, on découvre qu'après la mort d'Hérode Agrippa Ier, Barnabas et Saul rentrent à Antioche. Donc c'est qu'ils sont bienvenus à Jérusalem. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais malheureusement, on n'a pas trace dans les chapitres qui précèdent, 11, on n'a aucune idée. Donc on peut se dire que à cette époque-là se réfère peut-être à la venue de cette fameuse récolte attendue par Barnabas et Saul, puisqu'on les voit au verset 25 du 12e chapitre retourner à Antioche juste après le décès d'Hérode Agrippa Ier. Ça vous va comme explication ? Ok. Maintenant, essayons de voir qui était Hérode quand même. Parce que vous savez, on confond, il y a eu trois Hérodes, hein, trois princes qui ont porté ce nom. Dont,
celui-ci.
Dont le plus méchant, hein, Hérode le Grand, qui lui était vraiment un type imbuvable, qui a tué dans sa famille, tué les gens qui s'approchaient un petit peu trop de son pouvoir, claque, il les éliminait. Il a tué sa femme, enfin, ouais, un type sanguinaire. Hein. Bon, lui, c'est le gentil, on pourrait dire. Agrippa Ier est un peu plus gentil. Donc, lui, c'est le fils d'Aristobule, ça nous fait une belle jambe, et de Bérénice, le petit-fils d'Hérode le Grand, le méchant. Wow. Petit-fils.
Ah, c'est le petit-fils.
Oui, et le neveu d'Hérode Antipas. Pardon, vas-y.
Ben, j'allais dire ça. Okay.
Très bien. Qui, lui, n'aimait pas trop Agrippa Ier. Donc, c'était un couteau tiré entre l'oncle et le neveu. Alors, pourquoi ? Tu avais raison tout à l'heure de dire qu'il y a les Romains étaient là derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Agrippa Ier a été élevé à la cour de Rome. Une partie de son enfance et de sa jeunesse s'est passée en plein territoire romain. Et il était l'ami d'enfance ou de jeunesse de Gaius Caligula, qui lui est devenu empereur, n'est-ce pas ? Donc c'est un copain à l'empereur, d'accord ? Et cet empereur Caligula lui avait déjà donné, sous sa royauté, les provinces du nord et du nord-est de la Palestine, avec un titre de roi. Et puis le nouvel empereur, qui s'appelait Claude, dont on a déjà entendu parler, hein, Claude, lui donne la Samarie et la Judée. Donc finalement, il a regagné tout le territoire qu'Hérode le Grand avait auparavant. Donc il règne finalement sur quasi toute la Palestine en réalité. Donc c'est pas rien. Donc c'est un roi appuyé par les Romains. Du coup, vous pensez bien que des gars comme Ponce Pilate, etc., ils ont juste le droit de la fermer devant Hérode Agrippa Ier, puisque c'est le pote des empereurs, hein, de deux empereurs, pas que d'un. Donc on fait profil bas, évidemment. Et lui, il avait sa résidence principale à Césarée, ce qu'on peut voir, je crois, au verset 19, si je me souviens bien. Attendez.
Oui, je dis à Césarée. Oui.
Sa résidence principale, et il venait à Jérusalem quasi tout le temps pour les fêtes religieuses, j'entends. Donc ici, comme on est à la veille de la fête de Pâques, monsieur est monté de Césarée à Jérusalem. C'est ce que vous trouvez au verset 4, parce qu'en fait, Hérode Agrippa Ier était plutôt croyant. Alors, on ne sait pas si c'était sérieux, mais en tout cas, il affichait qu'il était croyant. Peut-être parce que, comme il n'était pas un juif à part entière, mais un demi-juif, si vous voulez, il aimait se faire bien voir. Et il était très dévoué au judaïsme, ce qu'on comprend. Alors pourquoi la persécution qu'il met en place ? Parce qu'en fait, dévoué au judaïsme, dont il observait les pratiques religieuses. C'est en tout cas ce que Joseph nous raconte dans les Antiquités. Joseph, l'écrivain juif latinisé. Hein. Donc, et il était un ardent défenseur du groupe des pharisiens. Du coup, il était assez bien aimé des juifs, puisqu'il n'était pas Hérode le Grand, le méchant, assez bien aimé des juifs pour cette raison-là. Parce qu'il caressait le judaïsme dans le sens du poil, peut-être moins les autorités du temple, mais en tout cas les religieux. Et on comprend mieux alors cette hostilité envers les messianiques qui, pour lui, sans doute, ne correspondaient pas au vrai judaïsme, notamment pharisaïque. Donc ça ne lui plaît pas. Et il décide, c'est ce qu'on découvre dans le texte, alors je ne sais pas ce que vous aviez trouvé, je crois que c'était au verset, que je ne dise pas de bêtises, que... Le texte dit quoi ?
Il fait arrêter, non ?
Il entreprit, enfin moi je lis la tome, il entreprit de mettre à mal. Je ne sais pas ce que vous aviez, vous, dans le verset.
Se mit à maltraiter.
Voilà, ok. Et alors qu'en fait, en grec, c'est assez fort comme terme, qui est d'ailleurs un terme sans doute d'origine sémitique au départ. Il mit la main, il mit les mains pour maltraiter.
Ouais.
Donc, si on traduit ça aussi fort que ça puisse l'être en grec, ça veut dire avec une action hostile, franchement violente. C'est pas, on prend pas des précautions, on y va franco, au point que qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'expression de cette persécution ? Bon, on sait qu'il s'attaque à la tête, etc.
Jacques, frère de Jean.
Oui. Et qu'est-ce qu'il lui fait à Jacques ?
Le tout. Ouais. Par l'épée. Le fait mourir par l'épée. Okay.
Par l'épée, carrément. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'il dit.
Ok. Donc, il le fait périr. Et supprimé par le glaive, en fait, ça veut clairement dire qu'on l'a décapité.
Oh.
Oui, c'est pas un coup d'épée, hein. Si on te coupe la tête. Voilà. En n'oubliant pas que Jacques, dont il est question, c'est qui ?
Le frère de Jean.
Le frère de Jean, qui s'appelait tous les deux...
Les fils du tonnerre.
Ok, donc Jésus les avait surnommés ainsi. Oui. Donc c'est les fils de Zébédée.
Et Jésus... Ah, Zébédée.
Et Jésus les avait surnommés fils du tonnerre.
Fils du tonnerre.
Sans doute parce que ça y est. Alors qu'ils étaient disciples à ce moment-là. Alors, on peut s'interroger pourquoi il s'en prend à Jacques. Parce que nous, on se dit, tiens,
mais c'est lui le chef de l'église de Jérusalém, non ? Il n'était pas dans la... Il n'a pas été chef de l'église de Jérusalém ?
Si.
C'est l'autre Jacques.
C'est l'autre Jacques.
Ah, c'est l'autre Jacques. Ah, ouais.
Et lui va prendre...
Le frère du Seigneur va devenir le chef.
Compliqué. Exactement. Hein. Oui, c'est pour ça. Comme il y a deux Jacques, c'est compliqué.
Et c'est pas maintenant, ça. C'est pas encore maintenant.
Oui, là, c'est le grand Jacques.
Il y a trois Jacques.
Sans blaguer, c'est Jacques le majeur. Donc, on peut le dire le grand Jacques.
Moi, c'est un autre, ça, le grand Jacques, chez moi.
Il y a Jacques le mineur, Jacques le frère de Jean, et Jacques le frère du Seigneur. C'est compliqué.
Ah oui, oui.
C'est comme les...
Ce sera après, alors.
Donc, oui, un petit peu... Très peu de temps après ça, puisqu'on verra très prochainement que le frère de Jésus va devenir le chef, et à mon avis le chef parce que quoi ? Pourquoi c'est Jacques qui prend le pouvoir ? Jacques, frère de Jésus.
Pierre est parti,
peut-être. Oui, c'est ce qu'on découvre dans notre texte. Il va se cacher parce qu'il est en péril, le gars. Il va se faire arrêter à tout moment. Donc, à la fin, pas de notre texte à nous de ce soir, mais à la fin du texte lié à Pierre et cette histoire, on va voir qu'il disparaît dans l'anonymat total. Sans doute en Judée, quelque part, au fin fond, ou en Galilée, pour se planquer, ne pas être sous l'autorité d'Hérode, de se faire arrêter, quoi. Donc, une chose qu'on peut observer, c'est qu'une des raisons de s'attaquer à Jacques, c'est parce qu'il fait partie du groupe des apôtres, donc de la tête, ça c'est très clair, et que vraisemblablement il jouait un rôle important à Jérusalem. Bien qu'il ne soit pas le chef de l'église de Jérusalem, il joue un rôle important parce que presque tous les autres se baladent. Ils sont une fois en Judée, une fois ci, une fois là, comme Pierre par exemple. Donc il y en a certains qui sont mandatés vers les territoires où l'église s'est répandue, et Jacques, lui, c'est un peu le pilier, le côté stable qui reste à Jérusalem.
Il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un pour l'église qui est restée là, pour les messianiques de là.
Exactement, entre autres.
Et les fortifier. Oui. Et puis il y a Paul, lui, que c'est pour les païens. Donc il faut un peu...
Et Pierre aussi, après.
Oui.
Donc ce qu'on s'aperçoit, si tu veux, c'est que... ça a été assez expéditif, cette exécution de Jacques. Si on s'en tient au texte, on découvre qu'il n'y a pas d'emprisonnement, pas de jugement. Le gars, on met la main dessus et on le zigouille. Je ne sais pas ce qu'on va dire, comme d'habitude, hein, jusque-là. Que ce soit les autorités religieuses ou le politique, personne ne respecte vraiment les règles. Et quand Hérode constate cela, qu'est-ce qui se passe? Quand Jacques a été exécuté, pourquoi Hérode fait-il arrêter Pierre?
Parce que pour que son nom soit écouté.
C'est très politique, finalement. Comme ça a bien marché, comme sur des roulettes, et que tout le monde a l'air satisfait, y compris les religieux, de l'exécution de Jacques, il se dit, mais continuons à décimer la tête. Hein. Et le prochain, c'est Pierre, pourquoi?
C'est lui le chef.
Alors, c'est en tout cas le grand animateur du groupement messianique.
Ouais.
Alors, il n'est peut-être pas le chef dans le sens pyramidal très catholique, mais il est quand même celui qui guide le mouvement depuis le début.
Puis Jésus l'a désigné presque comme le...
Alors, ok. Tout ça fait que, sans doute, il a une notoriété, lui, ou peut-être équivalente ou même plus grande que Jacques. Et donc, Hérode décide que, hop, le suivant sur la liste, c'est lui.
C'est Pierre, pardon.
Et alors, je vous pose une question. Je ne sais pas si je l'avais posée, mais... Pourquoi on ne le décapite pas?
Oui, c'est vrai. Il voulait refaire. C'est près de la fête de Pâques.
C'est dans la fête de Pâques.
Et c'est après qu'il allait le faire.
Donc, quand il constate la satisfaction des Juifs, il décide d'arrêter notre ami Pierre. Et c'était justement les jours des pains sans levain. Donc, au total, vous avez 8 jours de fête. Qui correspondent à la fête de Pâques. Hein. C'est Pâques et la fête des pains sans levain, ça, c'est un bloc. Ça. Donc, il le fait arrêter au moment où les fêtes ont commencé. Et donc, en bon respectueux du judaïsme, il n'est pas question de mettre à mort quelqu'un pendant la fête de Pâques. C'est totalement indécent. Donc, on l'arrête. Pour être sûr qu'il ne disparaisse pas, on préfère lui mettre la main dessus. Et est-ce que ça vous rappelle un événement d'ailleurs, ça?
La même chose.
Quand même. Le digne disciple de Jésus. C'est assez troublant d'ailleurs quand on y pense. Que ça se passe exactement comme son maître, quelque part. Notre ami Agrippa Ier continue, lui. À faire ami-ami avec le Sanhédrin, les autorités juives et les pharisiens, pas faire de jaloux, on arrête Pierre et on le fout en cabane. Et comment on traite ce Pierre?
Troublement fort, hein, attaché avec des chaînes, puis 4 escouades de 4 personnes. Je suppose que c'était pour par des équipes, quoi. Et puis alors, il y a encore après les gardes aux différentes portes.
Donc,
pour s'échapper, c'est
Gesine.
Impossible, sauf miracle.
Donc, on a bien compris qu'Hérode continue à faire ami avec les Juifs, parce qu'en respectant aussi bien les règles et en ne mettant pas à mort quelqu'un pendant la fête de Pâques, il gagne des points, lui, en attendant. Puis, je crois qu'il ne souhaitait pas vraiment troubler la fête et la ferveur des pèlerins qui viennent d'un peu partout. Mais nous verrons que le choix de la fête de Pâques n'est peut-être pas totalement innocent. Mais ça, on verra tout à l'heure. Donc, Pierre est arrêté. Comme son seigneur, lors de la fête de Pâques. Et on le met en prison, effectivement, comme tu l'as très bien dit, avec 4 escouades de soldats. Donc, il faut savoir que d'habitude, on faisait garder les prisonniers par 2 soldats, l'un relayant l'autre. Donc, quand l'un avait fait ses 3 heures de garde, c'était l'autre qui faisait 3 heures de garde. Là, on choisit, donc c'est Hérode, apparemment, qui choisit pour être sûr qu'on ne s'échappe pas, de faire en sorte que ce soit 4 escouades de 4 soldats qui vont se relayer. C'est-à-dire qu'il y en a 2 dans la cellule et 2 à la porte de la cellule, dont un près de la porte et un dans le couloir. Alors ce sont ces soldats, ce n'est pas des Romains, même si on peut peut-être penser qu'il est dans la forteresse Antonia, la prison romaine. En attendant, ce sont des gens de l'armée royale qui gardent Pierre dans sa prison. Et on imagine que s'il a été arrêté au tout début de la fête des pins, puisque dit à cette époque-là, donc au moment où la fête commence, si vous voulez, il est arrêté et il va y passer sans doute quelques jours jusqu'à ce que les fêtes soient terminées. Puisqu'on découvre dans le texte que c'est la nuit qui précède sa comparution que l'ange le fait évader, le fait sortir. D'accord ? Alors, essayons de voir. Donc, pourquoi fait-il procéder à une garde aussi
rapprochée,
importante et...
Il a peut-être entendu parler aussi des miracles et des...
Oui.
Et c'est déjà tout... une fois, entre guillemets.
Oui, mais...
Ah, bon, voilà. On a déjà eu l'histoire au temple où ils sont barrés à plusieurs sans que personne ne sache ni comment ni pourquoi. Puis qu'on retrouve dans le temple. Bah, lui, oui, il n'avait pas tellement envie que ça lui arrive, je pense. Il y a déjà ça. Et puis parce qu'on est en pleine fête de Pâques et que Hérode, comme les Romains, ne savent pas trop qui vient. Et qui est messianique parmi ceux qui sont là? Donc, il ne faudrait pas que ça fasse du grabuge et que finalement Rome s'en mêle, alors que lui essaye de dorer la pilule des deux côtés, des Juifs d'un côté, des Romains de l'autre, qu'il est plutôt bien vu. Donc, lui, je pense qu'il a dans l'idée que Pierre ne doit pas s'échapper et qu'il ne peut pas y avoir une délivrance venant de l'extérieur. Donc, surtout pas que quelqu'un décide à 5 ans de venir... pénétrer dans la prison et libérer Pierre. Donc il ne veut pas entendre parler de ça. Du coup, Pierre est très très surveillé. Au point que, comme vous l'avez lu dans le texte, il est enchaîné à deux soldats. D'ailleurs, chacun de ses bras est enchaîné au bras d'un soldat qui dorme avec lui, finalement, dans la cellule. Et que se passe-t-il après ?
Moi, j'ai une autre théorie. Bah, tout simplement parce que le miracle en devient encore plus miraculeux. S'il avait été gardé par une seule personne, bah, c'était déjà pas mal. Mais alors ici, le miracle est fabuleux.
Oui.
Ça, parce que ça vaut ce
après
que ça
coup,
vaut.
Après coup, ils vont se poser encore plus de questions.
Oui, ah oui, oui, ça c'est clair.
C'est sûr.
Et quelle est la motivation d'Agrippa Ier ? Lui, qu'est-ce qu'il veut faire avec Pierre ?
Un procès.
Oui, une espèce de procès.
Peut-être avec les chefs religieux.
Le citer devant le peuple, dit le texte, c'est la fête de Pâques. Donc c'est un peu une décision politique, une espèce de coup d'éclat. Coup d'éclat par rapport au judaïsme et coup d'éclat par rapport aux Romains. Et avec une espèce de parodie de justice, hein, parce qu'on se rend bien compte que si c'est le politique qui juge, ce ne sera donc pas les autorités religieuses, et qu'il n'y a aucune raison alors de s'en tenir à la loi. Hein. Le but réel, c'est quoi, d'après vous ?
De le condamner comme les autres.
Bah oui, c'est de l'exécuter. De toute façon, au bout du compte, c'est un faux procès, puisqu'on a quand même déterminé à l'avance qu'il faut le zigouiller. Ce qui sera de l'ordre de l'approbation de tous. Juifs et Romains vont être tranquillement d'accord. Et puis ça sert quand même la politique du roi, en ce sens qu'une comparution devant le peuple, hein, vous voyez ces mots, d'habitude la comparution c'est devant qui ? Alors, soit les politiques, les Romains, et voilà, soit les autorités religieuses. Il n'y a pas 36 000 manières de juger en Palestine à ce moment-là. Et tout d'un coup, on voudrait le faire comparaître devant le peuple. Alors une condamnation... devant le peuple, ça veut dire tout simplement que juste après la fête, au moment où les pèlerins sont encore là, présents à Jérusalem, ce qui est un coup de génie à mon avis, hein, faire ça juste à la fin des fêtes de Pâques, c'est d'une part condamner à mort Pierre, mais lui qui est l'instigateur principal du mouvement messianique, hein, je reviens un peu là-dessus, mais et le chef zélé du cercle apostolique aussi, eh bien, si on le tue avec l'approbation de tout le monde, les Romains, les autorités juives et le peuple, on peut imaginer que bien au-delà de la Judée, des frontières de la Judée et de la Palestine, et peut-être même jusqu'à Rome, on saura que les messianiques sont liquidés. Et c'est une manière finalement de dissuader tous ceux qui sont déjà messianiques comme tous ceux qui pourraient le devenir. Donc tous ceux qui sont tentés par une adhésion à la voie messianique vont être refroidis si on tue Pierre de cette manière. Et donc freiner vraiment l'essor que ce mouvement a pris.
Quand il parle de l'Église, c'est pas les Juifs.
Ce sont les Juifs messianiques.
Oui.
Ceux qui croient au Seigneur Jésus.
D'accord.
Donc on est toujours...
Parce qu'il dit à un moment donné, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de le laisser.
Donc là, évidemment, c'est bien l'Église de Jérusalem, les croyants messianiques de Jérusalem.
Prie pour lui.
Ok. Qui prie pour lui, évidemment, parce que...
Donc c'est pas ceux-là qui veulent que Hérode veut atteindre.
Ah, ben si, justement. C'est la tête de ceux-là. Ah,
ouais, mais l'Église est clandestine, hein. N'oublie pas que c'est l'Église chez l'habitant. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de lieu. Ils vont au temple, mais là, ils se montrent sans doute moins déjà au temple. Et donc, on apprend au verset 5 que Pierre est bel et bien en prison, avec un imparfait, ça veut dire qu'il y est depuis un moment, au moment où l'auteur parle. Et là, pendant ce temps-là, l'Église fait monter vers Dieu des prières à son intention. Alors, je suppose que l'Église sait dans quelle prison il est, qu'ils savent quelles sont les conditions d'arrestation et de maintien en prison, c'est l'anéantissement de tout espoir de le revoir, sauf mort éventuellement, et en tout cas, tout espoir d'évasion. Il n'y a pas d'évasion possible dans les circonstances dans lesquelles il est là.
On le verra plus tard.
Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Église se mobilise dans la prière, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ils ne peuvent rien faire pour le libérer, ils n'ont pas d'amis à aller soudoyer en haut, à des hauts niveaux pour le faire libérer. Donc, il s'adonne à la prière, vraisemblablement dans les maisons, hein, comme je le disais tout à l'heure, par petits groupes, peut-être même éparpillés en ville, car les chrétiens savent qu'après la Pâque se jouera définitivement le sort de Pierre. Ils ne sont pas bêtes, ils savent bien qu'une fois que les fêtes seront terminées, ça va se déchaîner. Donc, ils avaient déjà perdu Jacques. De manière soudaine et brutale.
Ils avaient le souvenir des siennes, ils avaient maintenant le souvenir de Jacques, tout frais.
Exactement.
Oui. Encore un dirigeant, je suppose que oui, ils n'avaient pas beaucoup d'espoir.
Ouais. Pas d'espoir, mais en même temps, ils se disent que Pierre est en vie. Lui, il n'est pas décapité. Donc, on peut prier pour que Dieu fasse quelque chose. Et pour qu'il soit soit épargné, soit libéré. Hein. Mais en y réfléchissant bien, on se dit, est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire et futile d'espérer que face à l'écrasant pouvoir royal et à sa violence, hein, puisqu'on a déjà zigouillé Jacques, que ça va changer. Mais eux, apparemment, ne se découragent pas. Et entrent dans le terme en grec, c'est assez fort, c'est quand même supplication. Mm-hmm. Hein, c'est une prière ardente pour Pierre, pour qu'il soit protégé.
Ils ont quand même déjà connu des choses extraordinaires.
Bien sûr. Mais surtout l'Église de Jérusalem, évidemment, plus que les autres, sont habitués à ce que Dieu fasse des choses. Donc je pense qu'ils gardent la foi tout en se disant l'idéal serait qu'on le laisse en vie. Il sera peut-être puni, mais bon. Et alors on nous dit, dans la suite du verset 6 et suivant, que cette nuit-là, donc, alors je ne sais pas ce que vous avez dans les traductions, les autres traductions, mais effectivement en grec c'est la nuit. Donc cette nuit-là, c'est la nuit de la future comparution. Donc Le lendemain à l'aube, paf, le gars va passer en jugement, soi-disant, etc. Donc cette nuit-là, on nous dit que Pierre dormait entre deux soldats.
Vous avez la chance d'y dormir, hein.
Oui.
Parce que dans ces conditions...
Le danger...
Un autre rue.
Le danger est donc immédiat.
Oui.
Et la mort est proche, tout simplement. Et Pierre, sans doute. Mais quel contraste alors, mes amis, entre, je dirais, l'anxiété et la fébrilité de l'Église, qui a peur pour Pierre, et peut-être même pour elle, l'Église, et la sérénité de Pierre. Parce que quand même, si vous lisez bien le texte, lui pionce, enchaîné entre deux soldats qui ne devaient pas être des amis, il pionce, il a décidé de dormir paisiblement. Et on peut se dire... Oui, justement, c'est bien ça. Donc, une certaine sérénité. Il n'est pas dans le déni de sa condition. Il sait qu'il est condamné à mort. Mais il est plutôt résolu à quoi ?
À subir son sort.
Au martyr. Ouais. Parce qu'il pense sans doute que ça peut servir l'Église.
Il va être comme
tout comme le martyr de Jacques ne va pas servir à rien du tout. Hein, comme tous les martyrs, d'ailleurs, comme toutes les persécutions, l'Église s'en sort décuplée, on pourrait dire, hein, oui. par des bénédictions spéciales, etc. Donc il est prêt. Il est prêt pour cela. Et c'est alors, versets 7 et 8, qu'intervient l'ange. C'est toujours marqué l'ange du Seigneur. Hein. Depuis quand on sait qu'il y a un ange? Ça fait plusieurs fois dans les Actes hein, qu'on voit apparaître des anges. Enfin, un ange en particulier. Est-ce que c'est le même? On ne sait pas. Mais cette délivrance va intervenir par cet ange qui s'introduit. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez de l'histoire là, de la prison, de la lumière éclatante? Ça nous fait penser à d'autres textes qu'on a déjà vus. Chaque fois que l'ange intervient,
il y a une lumière.
Il y a quelque chose de resplendissant, de très lumineux, etc. Ici, c'est très clair dans le texte grec que la luminosité est intense comparativement à la nuit. On est en pleine nuit.
Ah oui, oui.
Et croyez-moi que les saisons vont être éclairées à la torche, ça ne fait pas grand-chose comme luminosité. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous paraît bizarre là-dedans?
Mais que tous les autres
ne le voient pas. Personne ne le voit.
Oui, personne ne le voit. C'est pour incroyable. Ça qu'ils croient que c'est une vision, hein, puisque les soldats
n'ont même pas réveillé. L'ange a quand même réveillé, Pierre.
Oui, oui, oui.
Il n'a pas réveillé.
Oui, mais en tout cas...
Oui, mais et les autres, ils ne pouvaient
en
pas
tout cas,
dormir.
Si tu lis bien, si tu lis bien le texte, l'ange pénètre, on ne sait comment, dans sa geôle.
Si, c'est un ange, donc il est partout.
Donc, en grec, c'est le local. Donc, ça veut dire sa cellule. Oui. D'accord. Uniquement. Donc, il est passé à travers tout. Il est dans la cellule. Une immense luminosité. Toi, si tu as un phare qui s'allume en pleine nuit, à mon avis, tu vas te réveiller.
Ouais.
Ça paraît logique.
Oui, c'est vrai. C'est très gênant.
Donc, on se dit, c'est quand même très étrange qu'aucun de ceux qui sont là, mandatés pour le surveiller, ne va avoir de réaction. Eux, ils dorment.
On a déjà vu ça aussi, plongé dans un sommeil.
Ben,
avec Adam, tiens, quand on lui a bougé sa côte pour Eve.
On l'a piqué sa côte.
Si tu conçois qu'un ange puisse entrer dans une prison, par fenêtre, qu'il puisse avoir beaucoup de lumière, qu'il puisse réveiller seulement Pierre, tout le reste est normal.
Bah de soi.
Tout est possible.
Ben,
donc, effectivement, et c'est là ce que tu disais tout à l'heure en rigolant, c'est le côté miraculeux, absolument fabuleux de cet épisode, comme ceux qu'on a vus auparavant. C'est que quelque part, quand Dieu s'en mêle, il n'y a plus rien qui est normal.
C'est normal.
D'accord.
Et rien ne l'arrête.
Il n'y a plus de clé pour...
Exactement. Ouais, exactement. Donc, lui, Pierre, qui a déjà eu affaire, n'est-ce pas, à un ange, combien de fois?
Ah, ben, au tombeau, déjà.
Ah, ça, si on compte les évangiles, ok.
Ah, après, attends.
Mais dans les actes. Il y a eu l'ange de la prison.
La première fois.
Du Sanhédrin, n'est-ce pas? Oui. La toute première fois. Il y a eu sa vision avec l'ange qui vient lui parler, Jopé, pardon,
oui,
avant qu'il aille à Césarée. Donc, commence à être habitué, le gars, que les visions, ça peut arriver. Et du coup, comme tu le disais très bien, ben lui, il croit qu'il est en pleine vision. Il ne croit pas à un moment que c'est vrai ce qui se passe. D'accord? Donc, tout ce que l'ange lui dit de faire, il le fait parce qu'il est dans un... D'ailleurs, vous verrez, vers la fin du texte, verset 11, là, que quelque part, il est dans une sorte de rêve éveillé. Parce qu'en fait, il croit qu'il dort. Il croit que ça se passe vraiment dans son subconscient, si vous voulez. Alors que tout se déroule pendant. D'accord? Et qu'il est même bien réveillé, puisque l'ange l'a secoué pour le réveiller.
Il a dû s'enlever, mettre ses chaussures, se lever, marcher.
Il le réveille même brutalement, parce qu'il le frappe. Hein. Il le frappe sur le côté, dit le texte. Hein.
Ouais, il n'a pas douleur. Hein.
Et normalement, il ne pouvait pas bouger. Donc, s'il avait bougé, il aurait réveillé les autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Les chaînes sont tombées.
Les chaînes sont tout simplement défaites au niveau de ses poignets à lui. Ça n'a pas fait de bruit. non, je lui dis d'autres ordres, hein, toute une série d'ordres. Fais ceci, fais cela, mets tes sandales, hein, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et lui, il le fait, toujours en pensant que c'est la vision, que c'est quelque chose de l'ordre du rêve. Et d'ailleurs, le verset 9 nous le précise très très clairement.
Oui, oui, oui.
Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était du vrai.
Oui,
ouais, c'était pour du vrai.
Oui, oui.
Il croyait vraiment que c'était une vision et qu'il allait avoir la clé de la vision sans doute par la suite. Mais en attendant, c'est ce qui se passe. Il continue sa route. Je dirais quoi de plus naturel que Pierre pense que c'est une vision.
Oui.
Il en a l'habitude d'une certaine manière. Un ange éclatant, des chaînes qui tombent, des soldats qui n'interviennent pas, des postes de garde, comme tu dis, il y en avait quand même deux avant la sortie, plus la sortie elle-même, trois postes de garde allègrement franchis sans déclencher l'alarme. Lui, il se dit tout ça, ouais, c'est la vision,
bah ouais,
c'est normal. Et puis, voilà, il fait confiance à son ressenti, lui, ouais. Et il reste dans cet état un certain temps. Le temps de parcourir les couloirs de la prison, de sortir, etc. Et de se retrouver dans la rue. C'est quand même pas rien, quoi. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'il se retrouve seul, tout d'un coup, au bout d'une rue, dit le texte en grec, hein, au bout d'une rue, c'est-à-dire qu'il est en ville.
Mm-hmm.
D'où on sait que la prison était en pleine ville.
Mm-hmm.
C'est pour ça que certains pensent que c'était la forteresse Antonia. Mm-hmm. Bon, pas grave. En tout cas, c'est pas celle du Sanhédrin, ça c'est clair. Et c'était peut-être une prison appartenant au roi, ça c'est possible aussi. Toujours est-il que, au verset 10, on découvre qu'il passe un premier poste de garde, puis un second poste de garde, et que manifestement personne ne sonne l'alarme, parce que généralement ces postes de garde étaient équipés de grilles, donc il fallait franchir les grilles. Hein. Et le passage d'un ange lumineux et de Pierre n'attire aucunement l'attention de personne. Rien à signaler. Tout simplement.
Ils sont rendus aveugles.
Et alors ils arrivent à la fameuse porte de fer, qui elle est certainement gardée, si ce n'est pas à l'intérieur, à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe là?
Elle s'ouvre toute seule.
Oui. Alors c'est très intéressant parce que le grec utilise le mot automaté. Qui a donné le mot automatique.
Ah, oui, oui,
donc, elle s'ouvrit automatiquement. Ils arrivent, pouf. C'est déjà des détecteurs, là. Ouais. Elle s'ouvre automatiquement. Alors, bien sûr, on n'a aucune explication.
En plus, avec un petit voyant, hein.
On n'a aucune, l'ange en tout cas, là, aucune explication sur le comment s'est opérée cette ouverture, à la différence du chapitre 5 où on sait que c'est l'ange qui avait opéré la délivrance. Au chapitre 16, il y a aussi une histoire de prison comme ça, où on découvre que c'est une secousse sismique qui va permettre l'évasion, etc. Mais en tout cas, ici, on peut supposer que Dieu y est pour quelque chose, puisqu'un ange préside depuis le début à cette libération, en réponse, c'est un exaucement évidemment, en réponse à la prière de l'église de Jérusalem. Et parce que Pierre a encore un tas de choses à accomplir, et que Dieu le sait. Donc Dieu a besoin de Pierre, ce fameux Pierre qui avait renié trois fois Jésus, et qui a dû lui dire trois fois qu'il l'aimait. Vous voyez, pourquoi Dieu le laisserait tomber, celui qui a été la clé du messianisme en Palestine, et qui maintenant s'attaque aux païens en dehors du territoire. Donc voilà, je pense qu'il y a toute une série de raisons. Et moi, cette libération-là, ça m'a fait penser à une autre séquence alors, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ouverture de la mer. Vous voyez, coincé par les Égyptiens derrière et la mer, le peuple se dit « on est foutu ». Moïse prie et la mer s'ouvre. Et tout le monde est sauvé. Ben là, c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Alors, on peut noter qu'il n'y a donc pas de réaction des sentinelles, nulle part. Et il nous est précisé que cette porte était en quoi ?
Fer.
Alors, c'est pas pour rien que Luc le dit. Il le dit parce qu'alors ça veut dire que c'était une porte impénétrable.
Ouais.
À l'époque, on n'avait pas des forêts, on ne pouvait pas faire tout péter, il n'y avait pas de... Ouais, bon, donc, impénétrable, et on ne pouvait pas y mettre le feu pour pouvoir l'anéantir, parce que ça n'aurait rien donné. Donc, c'était hermétique. C'est ça que souligne Luc. On était dans une prison hyper sophistiquée, et pourtant, cette porte s'est ouverte automatiquement au moment où ils arrivent à ce... Et le texte alors nous ajoute que, voilà, ils allèrent au bout de la rue, et soudain, l'ange quitta Pierre.
Il avait fini sa mission.
Oui. Exactement. Lui, il a fait ce qu'on lui a demandé. Pierre a donc été entièrement accompagné par l'ange jusqu'à ce qu'il soit libre. C'est-à-dire sain et sauf, finalement. Alors l'ange disparaît. Et c'est alors que Pierre se rend compte que c'est vrai. Que ce n'est pas une vision.
Que c'est pourtant, la guerre ne sonne pas l'alerte non plus.
D'accord.
Donc, ils sont toujours endormis ou aveuglés.
En tout cas, tout le monde pense que Pierre est dans sa prison. Mmh. Ça, c'est très clair. Il reprend ses esprits, au verset 11.
Il fallait le faire.
Oui.
Comme s'il sortait un peu d'une...
Une transe.
Oui, de quelque chose de paranormal, si vous voulez. C'est d'un rêve éveillé. Voilà. Et il reprend ses esprits, justement parce que l'ange n'est plus là, et que lui se retrouve dans pleine rue à Jérusalem. En fait, c'est comme si l'ange lui avait redonné son autonomie, en disant, maintenant, tu te débrouilles. Moi, j'ai fait ma part du travail. Et maintenant, il est libre, et Pierre pourrait se débrouiller, peut se débrouiller, sans aucun secours divin, en tout cas pour échapper à la mort. Et on le verra dans la suite, qu'est-ce qu'il va faire.
Ben, il va retourner où les autres sont.
Là, en tout cas, dans une des communautés réunies en prière, c'est là qu'il se rendra.
Il va se cacher, non ?
Après. Et alors, il dit, oui, mais il va se cacher, mais après avoir rencontré les gens de l'Église, parce qu'il a un message à délivrer à cette Église, mais ça, on y viendra plus tard.
Ben, le fait d'être là, c'est déjà un message, non ?
Ah, oui, tout à fait. Vous avez prié, je suis là. Ben... À tel point que personne n'y croit.
Voilà. On lui ouvre même pas la porte. J'adore ce truc. Franchement, j'adore ce truc.
Vous pouvez me frapper, c'est bien.
Donc,
moi.
Pierre, on voit qu'il y a tout un mécanisme. Quand il reprend ses esprits, il dit, maintenant je comprends. Ce qui s'est passé, c'est la réalité. Le Seigneur m'a envoyé cet ange et il m'a fait échapper aux mains d'Hérode. Et alors, il y a cette phrase un peu mystérieuse, et à toute l'attente du peuple des Juifs. Je ne sais pas comment c'est traduit dans votre...
Moi, il est marqué de tout le mal que le peuple juif me souhaitait.
Oui.
Oui.
De tout ce que le peuple juif attendait, oui. C'est ce qu'on filme.
Ça veut dire qu'il y a une bonne partie, une majorité probablement de gens qui suivent les prêtres. Mm-hmm. Et donc, ils n'ont pas adopté la religion messianique, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et des fidèles pratiquants.
C'est quand même extraordinaire, hein. Parce que, mais pendant les 3 ans que Jésus a prêché tout ça, il y avait des foules immenses, 5 000, 4 000, etc. Et puis, il n'y a plus personne.
Mais surtout en Galilée. Là où Jésus était le plus suivi par des foules, c'est souvent la Galilée.
Oui, oui.
Et il vient pas pour à Jérusalem, ville, ça a toujours été problématique à cause, justement, des autorités du Temple.
D'accord.
Alors oui, il y a des disciples à Jérusalem, ça c'est clair, mais certainement moins que...
Et puis peut-être qu'ils ont peur aussi, à ce moment-là en tout cas.
Surtout qu'à l'époque, en Galilée, les Romains n'avaient pas vraiment droit au chapitre.
Et quand on pense qu'au moment où Jésus est venu monter sur un ânon, la population a quand même voulu
l'honorer comme roi.
Nommer roi, mais ça montre bien que la religion qui n'est pas réelle, elle change de facette constamment. Elle s'oriente là où il y a un semblant d'intérêt. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de racine. Là où Christ n'est pas, où c'est la pure religion humaine, c'est...
Oui, mais on ne peut pas dire ça de la religion juive. Tu vois ? Quelque part, c'est la religion qui a été voulue par Dieu. On ne peut pas dire que c'est une religion humaine, tu vois.
Non, mais ceux qui ne suivaient pas
Jésus, qui n'étaient pas
ceux qui ne suivaient pas Jésus, ceux qui ne suivaient pas ce que l'Ancien Testament avait annoncé par les prophètes, ils sont comme un caméléon, ils changent de couleur en fonction de l'intérêt du moment, quoi.
Surtout que quand tu sais qu'il y a quand même eu des périodes en Israël, patristes, très idolâtres et compagnie, où on continue à honorer Dieu, hein, attention, comme le veau d'or d'ailleurs. Hein. Exactement, même c'est Dieu qu'on adore en fait. Et en réalité, on est en pleine idolâtrie. Puis là, en plus, on sait très bien que ceux qui sont à la tête de la nation juive à ce moment-là sont presque tous des collabos qui sont peut-être pour certains pas juifs eux-mêmes. Donc c'est fort de café, quoi. Même la prêtrise, une partie de la prêtrise. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la fin du texte, donc le verset 11, hein, nous dit que cette libération va décevoir Hérode. C'est un peu normal, s'il pensait avoir mis la main dessus. Et décevoir l'attente du peuple des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà été enchantés par ce qui avait précédé, notamment le supplice de Jacques. Et ils attendaient sans doute impatiemment l'humiliation et la mort de Pierre pour en finir avec ce courant messianique. Et donc, tous ces gens vont être déçus.
Mais on ne parle pas de la manière dont Hérode réagit à cette libération.
Alors, on le verra après. Oui. Ah, après dans la suite du texte, on va découvrir...
Je ne sais pas où il va se rabattre sur ses soldats, où il va, bon, etc. Mm-hmm. Hein? Parce que lui ne peut pas admettre qu'un ange ait libéré Pierre. Enfin,
Même les Juifs, je pense.
Oui, ça, c'est encore un autre niveau, ça. Hein?
C'est à nouveau une libération qu'ils ne vont pas comprendre. Ouais. Pire encore.
Mm-hmm. Oui.
C'est ça.
Parce que déjà, les autorités juives, donc religieuses, n'avaient pas compris les précédents épisodes. Ou n'ont pas voulu voir que Dieu était à la manœuvre. Là, tu penses bien que le politique a encore moins de chances d'y voir clair dans ce qui va se passer.
D'y voir clair, d'accord, mais il peut se poser beaucoup de questions.
Si, oui, mais il n'aura pas le temps, lui.
Ah, il n'aura pas le temps.
Non, Hérode.
Ah, Hérode, oui.
Il n'aura pas trop le temps.
Il va mourir.
Hélas, pour lui. Voilà, alors est-ce que nous aurions l'une ou l'autre question par rapport au texte, pour pas qu'on laisse quelque chose de nébuleux sur ces 11 versets?
Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est la lumière. Mm-hmm. Et la lumière intense, Dieu ne travaille pas à l'ombre. Hein. Mm-hmm. Dieu est un Dieu de lumière.
Dieu est lumière.
Donc c'est normal qu'il y ait énormément de lumière. Il ne fait pas les choses cachées.
Non.
Il les fait à la vue de tout le monde. Que ce soit bien clair.
Je l'avais déjà dit, donc, quand on a analysé les autres textes avec l'ange, etc., c'est la lumière, c'est ce qui est divin, finalement. C'est vraiment l'expression de la gloire et toutes ces choses-là. Oui, puis je crois que tu as raison. Dieu ne s'embarrasse pas de cachotterie pour exécuter son plan.
Voilà. Dieu, personne ne peut le voir.
Il est souverain. Et
personne ne peut le voir, donc il envoie la lumière.
Ben c'est clair, si on t'illumine la tête, tu ne vois pas qui est en face. Hein.
Je suis en train de réfléchir un peu sur le mot mystère dans la Bible, et on voit que Dieu est devenu mystère à partir du péché, à partir de la chute d'Adam et Ève, et que Dieu se plaît à être lumière pour certaines personnes, mais ténèbres aussi pour d'autres. Parce que les prisonniers, les gardes n'ont pas vu la lumière. Ils n'ont même pas vu que la prison était vide, que les chaînes sont tombées, et il a fallu attendre le matin pour voir que Pierre n'était pas là. Donc, jusqu'au bout, les gardes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, quoi. Vous avez bu une bonne bouteille de gnôle. On ne sait pas, c'est incompréhensible. Mais Dieu ne se révèle pas toujours de sa lumière à qui il veut. Il y a des gens qui ne voient rien.
Ah, Dieu se laisse voir à qui il veut.
Donc ce que tu dis là veut dire que l'ange qui est venu dans la prison, la lumière et l'ange ne sont vus que par Pierre, par les soldats.
Soit que Dieu les maintient dans cet état de léthargie, d'absence, finalement, comme on peut être absent sous hypnose, par exemple.
Ouais, comme une hypnose.
Alors que sous hypnose, tu entends, on t'ordonne de faire telle chose, tu le fais, mais tu n'en as aucune conscience.
Comment comprendre les deux disciples d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas Jésus? Et il a fallu
Alors qu'ils connaissaient Jésus.
Et avec tout ce qu'il dit,
Jésus historique.
Et il a fallu qu'il fasse la Sainte-Cène.
Rompre le pain.
Rompre le pain. Donc, pouf.
Mais leurs yeux étaient...
Ils étaient empêchés.
Ouais.
Alors,
parce que
quand Dieu agit, on peut voir ou on ne peut pas voir. Parce que Dieu n'est pas lumière pour tout le monde quand il le veut.
Puis c'est Dieu qui décide. Hein.
C'est Dieu qui décide.
Parce que quand on a perdu un être cher, tu le vois partout. Quelqu'un de là... Hein? Moi, je me souviens bien, mon beau-frère est mort très jeune et dans des circonstances affreuses. Mais après, je le voyais partout. Et je savais bien qu'il n'était pas là. Donc, c'est étonnant. Moi, ça m'a toujours étonné, les disciples d'Emmaüs, qu'ils n'avaient pas reconnu Jésus. Parce que quand tu as perdu quelqu'un à qui tu tiens, ben, tu le vois presque partout.
Comme quoi. Marie qui n'avait pas reconnu le jardinier.
Voilà, aussi, oui. Pareil, c'est la même, c'est la même chose.
Exactement.
C'est la même
parole,
chose.
C'est le mot, c'est le...
Ouais, jardinier.
Qui fait qu'elle elle voit qui c'est par la suite. Quoi.
Parce qu'il appelle, ouais.
Ok, question encore sur le texte ou rajout d'une idée, d'un mot de...
Il faut garder confiance en Dieu à travers tout. Hein.
Ouais. Ouais, même quand apparemment, ouais.
Tout est perdu.
Là.
Tout est foutu. Hein. Mm-hmm.
Parce que des histoires comme ça de délivrance assez incroyables, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Hein. Quand Dieu exécute son plan, quelle que soit l'époque, ce genre de miracle existe. Hein. Donc ce n'est pas un miracle juste pour Pierre, c'est quelque chose que Dieu a répété au travers de l'histoire.
Mais c'est quand même une succession de miracles. Pour un miracle total, mais c'est quand même une succession.
Oui. Dans ce cas-ci,
oui. Ben oui, dans ce cas-ci.
Quand on pense à ce que Solivan a vécu. Arrêté, mis en prison, on donne l'ordre de creuser des tombes, dont un pasteur aussi avec Solivan, qui avait été arrêté au même moment, et Solivan n'a jamais eu de nouvelles de cet homme-là. Est-ce qu'il est mort ou pas, on ne sait pas. Et il a été libéré d'une manière tellement miraculeuse qu'il ne sait toujours pas comment, par qui, mais quelqu'un est venu lui dire « Fouille, ne reste pas, parce que sinon, tu n'auras pas une deuxième chance. » Alors qu'on avait donné l'ordre de creuser sa tombe. Et quand je pense à ce qu'il nous a raconté, son histoire, et qu'il devrait lire ça, il doit revoir son histoire.
Oui, oui.
C'est fou. C'est des choses. Et à l'heure actuelle, il ne sait toujours pas quoi. Et il ne saura peut-être jamais.
Peut-être jamais. Mais l'ange, pour lui, c'est celui qui lui a dit. Attends, quoi.
Comment est-ce que Dieu a délivré? Est-ce qu'il a... mis dans la tête de celui qui était en prison de lui dire, ben écoute, fous le camp. Mais bon, c'était les autorités, c'était le chef du gouvernement qui avait décidé son arrestation. Donc je suppose qu'on ne fait pas ce qu'on veut et qu'on ne libère pas qui on veut par sympathie. Mais il s'est passé quelque chose que Solivan, à l'heure actuelle, ne sait toujours pas. C'est fou, quand on y pense. Et on oublie ça, que Dieu peut le faire.
Donc on peut en déduire que, quelles que soient les apparences et la violence, Dieu reste le maître de l'histoire.
C'est Dieu qui a le dernier mot.
Parfois il accepte que tu sois martyrisé, parfois pas. Et... Mais lui sait pourquoi. Pourquoi ça intervient de cette manière-là, quoi.
Pourquoi Étienne et pourquoi Jacques, voilà, c'est ce que je me dis souvent.
Je
me pose souvent la question, mais Seigneur, pourquoi eux, tu as accepté?
Mais
et pourquoi pas
ouais.
comme les guérisons, il y a des guérisons, on parle tout le temps du cancer, il y en a qui sont guéris et il y en a qui meurent. Et des gens qui sont parfois très, très, très engagés pour le royaume, et tu en as dans ceux-là qui meurent aussi.
Hein?
C'est bizarre. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu, elles sont impénétrables.
Quand on découvre que la persécution, elle peut avoir des causes multiples, elle n'est pas que religieuse. Par exemple, en Inde, pour l'instant, les chrétiens sont persécutés par les religieux, qui en même temps sont pour certains au pouvoir. Bon, il y a une collusion là. Mais parfois, c'est strictement politique. Quand je pense à l'ancienne Union soviétique et ce qu'elle a fait à l'Église orthodoxe et aux baptistes en particulier... emprisonnement, goulag et compagnie, tuer des gens, c'était le lot.
C'est ce qui m'interpelle, c'est toutes ces choses comme tu dis là. Regarde pour le moment, c'est la commémoration des soldats qui ont été tués au Rwanda, le génocide. Comment est-ce que c'est possible des choses qui arrivent comme ça à l'heure actuelle, quand tu vois un Trump qui, lui, se base sur la communauté protestante, baptiste aussi, et qui se... Alors, c'est des questions...
Ça, c'est...
D'ailleurs, moi, j'ai toujours, quand il y a collusion religieux-politique, il faut vraiment se méfier. Oui.
Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi.
C'est pire chose, quelle que soit la religion, d'ailleurs.
Oui,
ça, je suis mais ce mélange de vouloir exercer un pouvoir politique et en même temps le pouvoir religieux, alors, qui est un président chrétien, ça, c'est bien. Je parle pas de ça, je parle vraiment de cette espèce de collaboration qui n'est pas saine entre religieux et politique, et on voit les débordements, hein, en termes de violence et de persécution, ça peut ne pas être triste, mais ceci dit, à côté de ces persécutions-là, il y en a d'autres qui peuvent être économiques. On peut te bannir, tout simplement, ou bannir tes biens, ou spolier tes biens, parce que tu es croyant et que tu veux pas renier Dieu, bon, voilà. Donc on peut avoir 36 000 situations, il faut être conscient de ça, et je pense même qu'il faut s'y préparer. Il faut toujours être prêt, voilà, j'ai plutôt ça que je voudrais dire. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain.
Mais moi, je mets la peau, place de vraiment un croyant qui croit, hein, etc. Et puis, comme tu dis, pour des raisons économiques, politiques, etc., il est spolié, il est chassé de chez lui, il n'a plus rien du tout. Mmh. Sa famille crève de misère, des histoires comme ça. Dans quelle situation doit-il être?
Ça doit être du
mental. C'est par exemple le cas pour un musulman qui se convertit.
Oui.
Par exemple, il perd tous les liens de famille, toutes ses affaires, commerciales et autres, tout lui est enlevé. Ouais. Il est vraiment banni. Ouais. Après, s'il arrive à se reconstruire, chapeau, quoi.
À l'église à Liège, il y a un couple témoin de Jéhovah qui s'est converti il y a 3-4 ans. Ils utilisent souvent le mot ostracisé, mais c'est complètement ça. Hein. Ils sont rejetés de tout. Famille, amis, travail, tout. Hein.
C'est
comme un musulman qui se convertit.
Ça peut être très très dur.
Tu dis ceux-là, ils se sont convertis chrétiens ou ils se sont convertis témoins de Jéhovah?
Non, ils étaient.
Ils étaient témoins de Jéhovah.
Ils sont sortis,
mais c'est ça que je
Ils sont à l'église de Liège. Ah non, ils sont à l'église d'Hertal, pardon. L'église évangélique d'Hertal. Ils sont des Rétines, ils habitent pas loin de chez vous.
Ben oui, le temple.
Ben lui, c'était un enseignant, il a été à tous les niveaux. Il sait très bien parler, c'est quelqu'un qui connaît bien sa Bible. Il a trouvé l'Évangile et il a trouvé Jésus. Mais alors, automatiquement, on s'est rejeté de tout. Mm-hmm. Non plus d'amis. Et bon, heureusement, ils se font des amis maintenant dans l'Église évangélique. Mm-hmm. Mais ils ont à subir et à souffrir un rejet complet. Mm-hmm. Et c'est très, très difficile.
Et ils ne sont pas persécutés parce que j'ai déjà entendu d'autres qui disent qu'ils sont harcelés la nuit par téléphone et des choses comme ça.
Ça peut arriver.
Ils n'ont pas parlé de ça.
Vous n'étiez pas là quand Philippe était là, tu vois, Philippe qui habite dans notre rue aussi.
Mais ça peut arriver, ça c'est vrai, tu as raison. Mais eux, comme c'était un dirigeant, je pense que...
Il était vomi. On a préféré le vomir.
Ah, simple, il était vraiment...
Moi, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais comment sont morts tous les apôtres et tout ça? Je suis tombé sur un texte intéressant. Maintenant, est-ce que c'est vrai à 100%? Je n'en ai aucune idée, mais la manière dont sont morts tous les apôtres. Je pose cette question-là.
Est-ce qu'il y en a pas?
Pierre, il a évangélisé Rome, il est mort crucifié la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, à une hauteur de 30 mètres. Il a survécu. Il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix, « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps de Christ et pendue à la croix. Il a continué à prêcher cet tortionnaire pendant 2 jours avant de mourir. Imagine. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier des apôtres à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché, vif, crucifié et puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il y est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse et la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul des apôtres à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome.
Et par quelles sont les sources pour tout ça? Je ne sais pas. Mais bon, il faut voir.
Mais bon, apparemment, ils sont tous morts en martyr, sauf Jean qu'on a raté.
Peut-être des documents d'historien.
On a bien, mais...
Il y a la tradition de l'Église aussi.
C'est la tradition, oui. Plutôt qu'autre chose. C'est fiable?
Je ne sais pas, il faudrait voir quelles sont les bases sur lesquelles...
C'est ce que moi j'avais trouvé. Je dis, ça c'est intéressant.
Ceci dit, dire que Jean est mort de sa belle mort... Non, je rigole. Il a quand même été sur une île. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur Patmos, mais
non.
Ça vaut bien le goulag, quoi, tu vois.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'une île déserte, sans rien, en plein cagnard, pas d'arbres, rien du tout pour te mettre à l'abri. Et c'est là qu'il écrit l'Apocalypse.
Oui, et c'est là qu'il
écrit. Faut le faire quand même.
J'aurais trouvé ça intéressant. Si c'est pas vrai, c'est pas loin d'être vrai, en tout cas pour certains.
Je pense que le témoignage des premiers croyants jusqu'au 3e siècle, ils l'ont presque tous payé de la mort. Donc, même des enfants, mais je veux dire, c'est pas que des gens qui enseignaient ou qui étaient franchement apôtres ou. Et énormément de croyants sont morts dans les trois premiers siècles. Mais ça n'a fait que renforcer l'Église, manifestement.
Mais oui.
C'est quand même étonnant que dans les pays actuels, enfin je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, etc., comment peut-on être chrétien et s'afficher chrétien dans des régimes comme ceux-là où on sait
qu'on risque la mort.
Donc il y a quand même une force,
il y a quelque chose,
qui est très très étonnant.
Ça tient du miracle aussi.
Alors que nous, on aurait presque envie de dire, mais pourquoi ils font ça? Ils devraient se cacher.
Ils devraient se cacher.
Oui, ben oui, peut-être parfois Dieu nous demande de se cacher, parfois pas.
Mais parce que Pierre, ici, il va se cacher.
C'est quand même en Iran, ce qui est étrange, vous voyez, c'est qu'il y a ces persécutions constantes, mais en même temps, l'Église ne cesse de grandir en Iran.
Terrible.
L'Église clandestine, j'entends. Mais bon,
c'est terrible.
Si seulement ça pouvait les libérer des mollahs, ce serait pas mal.
Les chiffres sont énormes.
Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour des questions. La prochaine fois, mais j'ai oublié de dire ça, je n'ai pas encore préparé, parce que je pensais avoir le temps, mais j'ai eu un.
Un contretemps.
Non, pas un contretemps, je m'étais engagé à faire un truc ce week-end sur l'écologie et ça m'a demandé énormément de travail. Voilà. Un point de vue théologique sur l'écho. Hein. Voilà. Donc la prochaine fois, on attaquerait les versets 12 à 19, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'histoire de Pierre. Quoi. Après, on passe à Hérode. La mort d'Hérode, etc. Ça vous va? Donc 12 à 19, et puis j'enverrai sans doute cette semaine, début de semaine.
Un petit questionnaire.
Un petit questionnaire lié à cet épisode.